Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Franck Kadé.
Nous sommes samedi 23 octobre 2021. C'est le moment de suivre le journal sur la radio Nzamba à la TKKW. D'abord les titres. C'est le maïs sous la prison. Le gouverneur de Rumonge fait arrêter 12 personnes pour avoir planté du manioc à la place du maïs, comme l'exigerait le gouvernement. Les agriculteurs s'insurgent contre la décision et demandent de les laisser libres de faire leur choix en la matière. La Tanzanie devrait plaider pour la levée des sanctions de l'Union européenne contre le Burundi. La demande est du président Evariste Ndayishimiye à l'endroit de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Un scandale selon le mouvement Maburundi Buhire. Et puis, le lancement de la vaccination contre le Covid-19 au Burundi et son contexte. C'est de cela que le mini-magazine Au cœur de la société va nous entretenir aujourd'hui. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
12 personnes ont donc passé leur première nuit au cachot de la zone Kigwena, en commune et province Rumonge. Elles ont été emprisonnées sur l'ordre du gouverneur de la province. Leur crime est de n'avoir pas planté du maïs. En effet, les habitants de cette zone ont reçu l'ordre de planter du maïs pour des besoins de visibilité auprès du gouvernement. Le point avec Prosper Ndissavila.
Il s'agit de 6 femmes et 6 hommes qui sont détenus au cachot de la zone Kigwena. Ils ont été arrêtés parce qu'ils ont été surpris en train de planter des boutures de manioc ce vendredi dans cette zone de Kigwena. Selon nos informations au Bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage, l'année dernière, la province de Rumonge n'a pas eu une récolte de maïs suffisante à présenter au gouvernement. D'où l'injonction du gouverneur adressée aux cultivateurs de cultiver le maïs à la place du manioc. Selon le gouverneur consolateur Nitunga, les habitants de la province de Rumonge doivent être soumis au programme du gouvernement et ils doivent cultiver le maïs.
L'OHP a déjà détruit plus d'une centaine de hectares de palmeraies. Nous devons soutenir le plan du gouvernement. Le maïs doit être cultivé sur toute l'étendue du terrain de l'OHP situé à Kigwena. Vous avez dit que j'ai donné l'ordre de détruire les champs de manioc et je l'assume. Nous avons pris acte de tout ce que vous dites, mais nous voulons que la province de Rumonge soit développée dans tous les secteurs. Les habitants de Kigwena, vous devez arrêter ces mouvements de protestation.
Mais les agriculteurs de cette localité ne l'entendent pas de cette oreille. Selon eux, chaque région est adaptée à ses cultures. Les agriculteurs de Rumonge devraient avoir le libre choix de cultiver des cultures qu'ils veulent.
Le manioc est notre aliment de croissance. Nous ne comprenons pas cette mesure de cultiver le maïs. Oui, c'est une autorité, mais il faut qu'il nous démontre l'intérêt de cette décision. Nous nous demandons que cette mesure soit suspendue, car c'est une mesure injuste. L'emprisonnement de ces personnes ne va pas générer la plantation du maïs.
Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le gouverneur de Rumonge prend des décisions qui vont à l'encontre des habitants. Il n'y a pas un mois, il a obligé tous les propriétaires des voitures et des automobiles de transport en commun et d'autres acteurs économiques de payer une somme d'argent pour soutenir l'équipe provinciale de football. La mesure n'a pas duré 48 heures, car elle a été contestée. À l'instar de ces derniers, les habitants de la zone Kigwena demandent à l'autorité provinciale de suspendre la mesure et de les laisser libres dans la pratique agricole.
Et puis, cette brève arrestation ce jeudi d'une élève mineure de l'école fondamentale de Chindoni, dans la commune de Marangara, de la province d'Ongozi. Elle est accusée d'infanticide. La mineure est incarcérée au cachot du commissariat de police communale à Marangara pour des enquêtes. Elle aurait avorté et jeté l'embryon de 5 mois dans les latrines. Des informations émanant de Marangara indiquent que l'auteur de la grossesse serait un membre influent du parti CNDD-FDD qui, lui, ne serait pas inquiété. Et pourtant, le code burundais de procédure pénale prévoit une peine de 20 ans d'emprisonnement pour des auteurs de grossesse non désirée sur mineurs. Le pouvoir en place au Burundi est en train de faire disparaître les crimes commis contre les gens d'ethnie Tutsi. L'affirmation est de l'association AC Génocide Chirimoso, section Canada. Elle se base sur le travail de la commission Vérité-Réconciliation qu'elle qualifie de divisionniste, ainsi que la récente limitation du nombre de personnes qui devaient se recueillir devant le mausolée des élèves Tutsi tués à Kwibubu le 21 octobre 1993. L'association l'a dit ce samedi, alors qu'elle commémorait ce qu'elle qualifie de génocide perpétré contre les Tutsis du Burundi en octobre 1993 et les mois qui ont suivi. Écoutez Emmanuel Nkurunziza, secrétaire général de l'AC Génocide Chirimoso, section Canada.
Il est question beaucoup plus du rôle néfaste de la CVR parce que en tant qu'acteur de premier plan du plan de génocide, c'est-à-dire en qualité d'outil de l'État destiné à intervertir les faits, à fausser l'histoire et à cultiver, à écrire une histoire qui gomme complètement le génocide perpétré contre les Tutsis du Burundi, eh bien, nous autres, en tant qu'organisation militant pour l'interdiction, en fait, militant pour le plus jamais ça, nous ne pouvons pas ne pas répéter pour la énième fois que plus que les tueurs qui ont conçu puis mis à exécution ce plan de génocide, le plus néfaste de tous ces acteurs, c'est bel et bien celui qui met en exécution ce plan de déni, c'est-à-dire la CVR. Parce que voyez-vous, les morts sont morts, comme diraient les poètes, mais ce qui reste après justement le crime de génocide, c'est la justice. Si on a un organe qui utilise les fonds de l'État, qui est maintenant choyé par toutes les institutions de la République, c'est que justement cet État qui est dirigé actuellement par une organisation qui a été mise sur pied par le Conseil de ce génocide contre les Tutsis, c'est bien que le rapport, les recommandations que vont émettre cette CVR vont dans leur espoir, c'est-à-dire gommer à jamais ce crime de génocide perpétré contre les Tutsis. Eh bien, nous autres, en tant qu'organisation représentant et soutenant les survivants, nous mettons l'accent justement sur ce rôle néfaste pour que, dans un premier temps, il n'y ait aucun acteur responsable, conséquent, qui donne considération, qui donne crédit à ce travail, parce que, ultimement, si nous acceptons que les contre-vérités tiennent lieu d'histoire du pays, eh bien, nous faisons que creuser davantage de tombes dans ce pays. C'est ce que nous ne voudrions pas voir dans ce pays, parce que, justement, l'injustice mène à l'injustice, et c'est cela que nous voulons éviter au pays.
Inzamba.
Poursuivons ce journal avec le gouvernement tanzanien qui est appelé à faire rentrer les réfugiés burundais au pays. La demande est du président Évariste Ndayishimiye qui est en visite en Tanzanie depuis vendredi. Il s'adressait à la présidente Samia Suluhu Hassan hier lors de leur rencontre à Dodoma. Mais cette demande est loin de plaire à la coalition burundaise de défense des droits de l'homme et des réfugiés. Pour la coalition, l'État burundais doit d'abord tout mettre en œuvre en matière de sécurité avant de réclamer le retour des réfugiés au pays. C'est l'appel de Léopold Sharangabo, vice-président de cette coalition. Il demande par ailleurs au gouvernement tanzanien de respecter les conventions internationales régissant les réfugiés au lieu de les forcer à rentrer.
Nous avons bien sûr des inquiétudes après avoir entendu cette demande du président Ndayishimiye. Il a demandé tout simplement que le rapatriement forcé continue. Tout le monde sait déjà ce qui est arrivé aux réfugiés burundais en Tanzanie. Certains ont été tués, les autres ont été rapatriés forcément. Il y a même des autres qui ont été kidnappés en plein air par les agents de service de renseignement burundais et en collaboration avec la police tanzanienne. Ndayishimiye vient alors mettre la poudre dans le feu. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement tanzanien le respect des conventions signées et ratifiées, en renforçant bien sûr la sécurité des réfugiés burundais, en évitant tout acte qui cause le rapatriement forcé. Nous demandons aussi au gouvernement burundais de ne pas continuer à demander le rapatriement forcé, au lieu de se focaliser d'abord sur la sécurité dans le pays. Nous savons qu'il y a pas mal de rapatriés qui subissent jusqu'à maintenant des menaces. Certains ont été tués, il y a ceux qui ont été kidnappés, les autres ont dû retourner en exil. Il faut que le gouvernement burundais accepte les dialogues inclusifs pour que la paix retourne dans le pays.
Toujours à propos de cette visite du président Evariste Ndayishimiye en Tanzanie, c'est scandaleux que le chef de l'État burundais fasse recours à la Tanzanie pour demander de plaider auprès de l'Union européenne en faveur de la levée des sanctions prises contre le Burundi. C'est le sentiment du président du mouvement MAP Burundi Buhire, Emery Pacifique Igiraneza, qui indique aussi que cela vient confirmer les doutes de certains Burundais sur la mainmise de la Tanzanie sur le pouvoir de Gitega. On l'écoute.
Pour nous, c'est une faute diplomatique, c'est un scandale diplomatique et c'est une maladresse par rapport à ces gens-là qui comptaient le président du côté diplomatique. Ça ne se fait pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré que le Burundi est un demi-pays et que la Tanzanie est toujours là pour être comme un représentant de son pays qui n'est pas à mesure de se représenter valablement. Voilà ce que ça veut dire. En deuxième lieu, j'aimerais dire que aussi, ceci vient de révéler encore une fois le doute qui se trouvait au niveau de la relation entre le Burundi et la Tanzanie quant au secteur du commerce. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il y a des hommes politiques et des dignitaires tanzaniens qui vraiment dominent l'économie du Burundi indirectement, qui contrôlent tout ce qui se fait là dans le commerce de plusieurs produits. Alors maintenant, c'est sûr que le président du Burundi connaît que cela est une réalité. Donc il connaît qu'il y a une force exceptionnelle car la Tanzanie, par rapport à la survie économique du Burundi, voilà alors ce qu'il est en train de confirmer. Il avait lui-même dit que le président Magufuli était son père. Maintenant, il est allé demander aussi à la présidente de faire cette tâche de parent par rapport au Burundi. Et encore une fois, c'est un double scandale parce que ça démontre que le Burundi n'est pas à mesure de se représenter, mais aussi ça prouve que la Tanzanie a une main sur ce qui se passe au Burundi.
C'était Emery Pacifique Igiraneza, président du MAP Burundi Buhire. Signalons qu'Evariste Ndayishimiye est à son deuxième jour de sa visite en Tanzanie. Il était prévu qu'il visite l'île de Zanzibar ce samedi pour retourner à Dar es Salaam où il doit s'entretenir avec la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. C'est au tour du magazine Au cœur de la société de ce samedi. Il est consacré au récent lancement de la vaccination contre le Covid-19. C'est avec Joséphine Jones-Hunzimana.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idjouya Anyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le Burundi a débuté les activités de vaccination contre le coronavirus lundi 18 octobre 2021. C'était après la réception de ses premiers vaccins à travers un don de la Chine. Seule une poignée de Burundais a reçu une dose de vaccin contre la Covid-19 depuis le lancement de cette semaine d'activités de vaccination, l'une des plus tardives au monde. L'absence d'une campagne de vaccination serait-elle derrière cette ignorance de vaccin? En période de pandémie ou d'épidémie, que devrait être la responsabilité des États? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 23 octobre 2021. À la présentation, Joséphine Jones-Kunzimana, bienvenue à tous. Seules 175 personnes se sont fait vacciner les deux premiers jours selon le ministère de la Santé publique. Parmi ceux-là, quelques personnels de santé et les premiers volontaires. Certaines personnes contactées par nos confrères de la télévision Renaissance indiquent ne pas avoir assez d'informations sur ces activités.
Moi, je voudrais bien prendre ce vaccin, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas où je peux le trouver. Nous avons entendu à la radio qu'il y a des pays qui ont donné ces vaccins à notre pays, mais j'ai partout cherché ici à Muyinga, je n'ai pas pu trouver un centre de vaccination. Je voudrais demander à l'État de nous indiquer des endroits où on peut trouver ces vaccins. Ce qui décourage les gens d'aller chercher le vaccin, c'est le discours des autorités. Elles ont dit que les vaccins sont disponibles et que toute personne qui le souhaite peut aller se faire vacciner, mais qu'elle va assumer seule les effets néfastes de ce vaccin. Qui osera aller se faire vacciner avec ce discours? N'y voyez-vous pas un piège dans ce discours des autorités? Un grand piège. Chez nous, personne ne pense au vaccin vraiment. Le COVID-19 est considéré ici comme une simple grippe. Chez nous, à Matana, plusieurs personnes ont été déjà contaminées par le COVID-19. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de cas testés positifs au COVID-19, mais ces gens guérissent les uns après les autres. Même si on amenait ces vaccins, il n'y aura pas de preneur. Maintenant, il y a par exemple une rumeur selon laquelle si une personne est vaccinée contre le COVID-19, alors qu'il a déjà ce virus, il meurt sous le champ. Les gens ont peur de prendre ce risque inutile, étant donné que cette maladie est curable.
Gitega campe donc sur sa position. Il n'y aura pas de campagne de sensibilisation à la vaccination dans le pays. En revanche, elle a mis à la disposition des volontaires un lien pour prendre un rendez-vous sur Internet. Emi Denis Bastumba de la Radio Publique Africaine nous parle de l'organisation de ces activités de vaccination dans tout le pays.
Il faut d'abord demander un rendez-vous avant de bénéficier du vaccin anti-Covid au Burundi. Cela se passe sur le site web élaboré par le ministère de la Santé publique, cousp-minisante.gov.bi/rendez-vous-vaccination. Sur ce site, le candidat à la vaccination doit compléter son nom, son adresse, son téléphone, etc. Au total, il doit répondre à 28 questions. C'est un formulaire que l'on peut compléter à partir de n'importe quelle province si l'on a un téléphone portable approprié ou un ordinateur connecté sur Internet. Ceux qui ne sont pas capables de passer par l'inscription en ligne sont obligés de se rendre à Bujumbura, au centre du programme élargi de vaccination. C'est tout près de l'hôpital Prince Régent Charles. C'est de là alors que le candidat demande un rendez-vous. Les agents sur place complètent pour lui le formulaire de 28 questions. C'est le seul endroit de vaccination jusqu'à présent. Dans différentes provinces du pays, nos sources nous ont signalé qu'il n'y a aucune dose de vaccin anti-Covid-19. Avant de se faire vacciner, le candidat qui s'est rendu à ce centre à Bujumbura doit d'abord se faire dépister. C'est lorsque le test est négatif qu'il est autorisé à recevoir sa première dose de vaccin. Mais il doit d'abord signer un formulaire de consentement qui dégage de toute responsabilité l'État burundais quant aux effets du vaccin anti-Covid. Après la première dose, on demande à la personne vaccinée de revenir après une période allant de 2 à 4 semaines pour recevoir la seconde et la dernière dose du vaccin anti-Covid.
Pour Dr Jaminani, ancien ministre de la Santé publique, en cas de pandémie, il n'existe pas de vaccination volontaire ou isolée. Il appelle les responsables du pays d'organiser une vraie campagne.
Le gouvernement du Burundi doit tout faire pour faire vacciner le maximum de citoyens burundais. Aujourd'hui, le COVID-19 est une pandémie mondiale et le monde entier se lève pour le combattre par tous les moyens et le plus efficace est la vaccination. Aucun pays ne peut s'y soustraire, aucun individu ne peut s'y soustraire parce qu'il s'agit d'une calamité. Il faut donc que tous les Burundais en âge d'être vaccinés se fassent vacciner, sans exception. Quand on dit « se fera vacciner qui veut dans notre pays », je trouve que cela est léger. À mon avis donc, nous devons encourager toute la population burundaise en âge de se faire vacciner d'y aller le plus rapidement possible. Et le gouvernement de demander toutes les aides possibles pour qu'il y ait suffisamment de vaccins afin de vacciner toute la population.
Vous vous rappelez que le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a réaffirmé dimanche dernier à la veille du lancement des activités de vaccination contre le coronavirus que le gouvernement ne fera pas de campagne de sensibilisation et ne portera aucune responsabilité d'éventuels effets secondaires de ce vaccin. C'est par ici que nous mettons un point final à notre mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Rendez-vous samedi prochain pour un autre mini-magazine. Joséphine Johnson-Zemana vous le présenter. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et puis, comme tous les samedis, on termine cette édition avec la revue de la presse hebdomadaire. Elle vous est présentée par Valérie Mucho.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue, chères auditrices et auditeurs de la radio Inzamba, dans cette revue de la presse que nous commençons par la page économie. Comme Manera Kiza, un nom dans l'histoire, titre le journal Iwachu, le généreux ministre, entre guillemets, comme Manera Kiza a offert à l'État du Burundi un bâtiment de plusieurs étages, ce dont a suscité beaucoup de commentaires, car selon le journal Iwachu, il est rare qu'un ministre dispose de tant de moyens jusqu'à offrir un grand bâtiment à son employeur, en l'occurrence l'État. Le généreux ministre qui sera d'ailleurs décoré par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Mais il y a une épine dans le pied du ministre, le barrage de Manda, qui est devenu un scandale économique, lui a fait perdre le succès. Le fameux barrage, qui a englouti 54 milliards de francs burundais, n'a pas été achevé et les constructions sont en ruine. On se pose la question de savoir si le président de la République aurait pensé à la médaille décernée à l'ancien ministre quand il a découvert le désastre du barrage de Manda. Toujours en page économie, le journal Burundi Echo écrit sur la hausse des prix des denrées alimentaires au marché de Kayanza. Les principales denrées alimentaires consommées et dont les prix ont augmenté sont le riz, la farine de maïs, le haricot, la viande, la farine de manioc, le blé et les légumes. La hausse des prix de ces produits est liée au mauvais rendement agricole observé ces derniers temps, ainsi qu'à la pénurie répétitive du carburant qui entraîne la hausse des prix des produits importés. La page des droits de l'homme, pour continuer cette revue de la presse, les parents d'élèves Tutsi massacrés à Kibimba réclament toujours justice 28 ans après, écrit le journal en ligne SES Média. 28 ans après que 150 élèves Tutsi du lycée Kibimba ont été brûlés vifs le 21 octobre 1993, après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, des parents et amis s'étaient rendus à Kwibubu, dans la province de Gitega, au mémorial dédié à ses élèves. Et au nom des rescapés des massacres des élèves Tutsi du lycée de Kibimba, Florence Lutamuchero est revenue sur le calvaire qu'ils ont enduré. Ils avaient été rassemblés à la station-service de Kwibubu par le directeur du lycée avant d'être brûlés vifs. Pendant plus de 2 années consécutives, selon SES Média, les autorités burundaises ont empêché aux familles et aux associations de commémorer les leurs comme ils le désirent. Pour cette année, seulement 10 personnes étaient autorisées. Selon Simon Suguru, qui avait représenté les parents qui ont perdu leurs enfants au lycée de Kibimba, la commission Vérité et Conciliation doit entamer la recherche de la vérité sur d'autres crises qu'a connues le Burundi. Bouclons cette revue de presse par le journal Net Presse qui a écrit sur des cadavres retrouvés ici et là dans le pays. Un corps sans vie décapité et non encore identifié a été retrouvé le 20 octobre à Kanyosha dans la province de Bujumbura. Ce cadavre a été découvert par des cultivateurs qui se rendaient aux activités champêtres. Il était emballé dans un sac, il a été inhumé immédiatement. Un autre cadavre d'un homme avait été retrouvé la veille à Kinyangonge dans la zone de Chibitoke. Le cadavre serait celui d'un homme qui avait disparu quelques jours avant dans la ville de Bujumbura, selon toujours Net Presse. Et voilà, madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette revue de la presse qui a été présentée par moi-même, Valérie Mucho. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir et à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Fin de cette édition, merci à la rédaction de la radio Inzamba Agathe Katawe pour la production de ce journal. Un grand merci à vous également, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.